décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 12. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Amalia.
Salut tout le monde.
Revue de presse Manu, s'il te plaît.
Donc on a 5 thèmes principaux cette semaine.
Le vent se lève, la bataille des lobbies européens autour de la directive copyright.
Donc le gros sujet de la semaine, plein d'articles qui sont sortis, qui vont encore sortir probablement parce qu'il y a un vote dans les jours qui viennent, qui devrait décider de tout ça, sachant qu'il y a eu des manifestations en Allemagne et dans d'autres pays et qui ont amené plus de dizaines de milliers de personnes dans les rues, 40 000 à Munich notamment.
Alors sur les réseaux sociaux, c'est le hashtag Save Your Internet et d'ailleurs nous à l'April on s'est fait prendre en photo.
Pendant l'Assemblée Générale.
Le Temps, hacker pour la science à Genève par Florent Yard.
Donc c'est un hackathon, une sorte de marathon du hack, on va dire donc de la bidouille, qui essaye de s'organiser sur, entre autres, la science et l'innovation. Et c'est l'Open Geneva Festival qui met tout ça en place.
Lesinfostratèges.com, le CESE prône une politique de souveraineté européenne du numérique par Fabrice Molinaro.
Donc je ne sais pas exactement ce que c'est que le CESE, c'est une des administrations européennes, une institution. Et ils mettent en avant un combat pour le logiciel libre, contre notamment les GAFAM, pour que justement en Europe, on soit un petit peu plus souverainiste.
Forbes France, Bitcoin, un projet communiste par Lionel Meneguin.
Alors c'est amusant, parce que justement, Bitcoin et communisme, on a tendance
ça
à les mettre...
Ça sent le
troll. Oui, il y a de ça, mais pourtant, il y a des choses intéressantes. Le fait que, par exemple, le Bitcoin évite les intermédiaires et ne permette pas, en tout cas dans son optique la plus couramment utilisée, ne permette pas aux banques de s'instituer comme les intermédiaires usuels.
Uzbek Erika, la DARPA prépare un système de vote électronique impossible à hacker par Sophie Claudesly.
Alors, le vote électronique, c'est un vieux sujet. La semaine dernière, je crois, le vote électronique en Suisse qui s'est fait hacker, des chercheurs qui étaient tombés sur des grosses failles, donc c'est en train d'être corrigé. Et là, la DARPA se lance sur un projet qui paraît impossible, parce que comment concilier l'anonymat du vote tel qu'on le voit aujourd'hui et la sécurité du vote, normalement, c'est impossible.
Et du coup, Luc, on parle de quoi ce soir ?
Eh bien, de rien de ce que vous avez évoqué, puisque nous avons Amalia avec nous et on en profite.
Ouais.
Donc, Amalia, tu fais plein de choses, tu es notamment à Framasoft.
Oui.
Et tu vas nous parler d'une autre association, parce qu'on parle trop de Framasoft, ça suffit comme ça.
On parle jamais assez de Framasoft.
Bon, bah, pas ce soir en tout cas, ce sera Kaganat, qui est une association dans laquelle tu fais quoi d'ailleurs ?
Alors, dans Kaganat, je fais plein de choses. Je m'occupe de l'administration système, mais aussi de l'animation de communauté et de faire des câlins à tout le monde.
D'accord.
Parce que c'est ça aussi, l'animation de communauté.
On pourrait peut-être commencer par dire, c'est quoi Kaganat ?
Alors, Kaganat, c'est une association qui est vraiment dans la culture libre, de façon un peu vaste. C'est un très, très gros projet. Au début, on est parti tout simplement en se disant, on va faire un MMORPG, c'est facile.
MMORPG ?
Un jeu de rôle en ligne multijoueur, qui est, il faut le savoir, dans le jeu vidéo, un des trucs les plus casse-gueule qui soit. En général, pour des jeux qui peuvent potentiellement marcher, ça veut dire des millions d'euros d'investissement, et quarantaine de personnes à plein temps pendant 2 ans avant d'avoir quoi que ce soit qui soit à peu près présentable, et même comme ça, il y a des très très grosses boîtes qui se cassent la gueule. Donc nous, évidemment, quelques bénévoles motivés par le libre, on se décide de se lancer là-dedans, tout va bien. Et on s'est dit que c'était un peu petit, il fallait viser un peu plus gros, et que voilà, le jeu vidéo, c'était bien, mais il fallait vraiment aller plus loin, parce que quand on parle de culture libre, bah, ça touche vraiment tous les médias. Quitte à développer un univers dans lequel il allait se passer des choses, il fallait aussi pouvoir en écrire des histoires, faire des pièces de théâtre, faire du jeu de rôle... pas forcément en ligne, faire de la musique, peut-être à un moment, je sais pas, que quelqu'un ait envie de faire des vêtements qui soient inspirés de ce qu'on aura inventé pour l'univers et qu'on puisse porter pour sortir. Toutes ces choses-là, bah, c'est possible avec la culture libre, d'autant plus facilement, il n'y a pas besoin de payer des royalties à une grosse boîte pour faire ce genre de choses. Et donc Kaganat, c'est vraiment ça, c'est faire de la culture libre dans un sens extrêmement vaste.
Comment tu écris Kaganat ?
Kaganat, c'est K-H-A-G-A-N-A-T.
Ça veut dire quelque chose ?
Et oui, ça veut dire quelque chose. À la base, on avait trouvé un nom qui voulait dire balai, dans une langue africaine, je crois. C'était une blague pour un de nos membres qui était condamné souvent à passer le balai dans le hall de guilde. Il se trouve que le nom en question, c'était aussi le nom d'un monde dans Dragon Ball Z, donc on ne pouvait évidemment pas l'utiliser pour notre super projet. Et donc on allait chercher un truc avec une sonorité un peu proche, et on a trouvé le mot de Kaganat, qui est en fait un mot mongol, qui désigne un ensemble de royaumes. Un royaume, c'est un khanat, et tous les royaumes ensemble, c'est un Kaganat.
Ça tombait super bien.
Ouais, c'est magnifique au niveau de l'image. Voilà. Alors nous, on propose le premier univers qui s'appelle le Kanat. C'est un univers cohérent avec plein de choses qui sont dans cet univers. Voilà, il y a une logique qui est propre à l'univers. Mais on veut montrer l'exemple. On ne veut pas être juste le monde libre de référence. Ça aurait aucun sens. On veut que notre démarche, n'importe qui puisse se l'approprier, donner de l'ampleur aux imaginaires qu'on peut avoir dans nos têtes et qu'il y ait plein de mondes libres qui apparaissent, que ça devienne de nouveau la norme. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas inventé les univers libres, hein, ça existait depuis l'aube des temps. C'est tout récent, le fait de privatiser les univers.
Est-ce que tu connais Rhizome ?
Oui, bien sûr.
Alors Rhizome, c'est un MMORPG qui était initialement un jeu propriétaire, qui s'est cassé la gueule comme beaucoup d'autres, comme tu le disais, et qui a été libéré, je crois même racheté en partie, et qui est aujourd'hui 100% libre.
Ce n'est pas 100% libre. En fait, Kaganat se base sur Rhizome. C'est grâce à Rhizome qu'on s'est rencontrés. Mmh. L'équipe initiale en tout cas, parce que maintenant il y a des gens qui viennent d'horizons différents. Rhizome est un jeu exceptionnel. Enfin, si vous avez l'occasion d'y jouer, c'est vraiment un univers à part et il y a des choses qui sont fabuleuses dedans. Mais il faut savoir que non, le jeu n'est pas 100% libre. Même si c'est aujourd'hui un des jeux qui était à la base propriétaire qui s'est le plus libéré, tout le code est libre, sous licence AGPL. Tous les assets graphiques sont libres, sous licence CC BY SA. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Par contre, l'univers lui-même n'est pas libre. Il appartient toujours à Winchgate. Et donc, on ne peut pas recréer un Atis, donc l'univers de Rhizome, et en faire une version parallèle, par exemple. Ce n'est pas possible.
Rhizome, allez, dis à quoi ça correspond, Rhizome ? Il y a le nom a un sens.
Je suppose que c'est lié à un truc dans le cerveau, c'est ça, non ?
Non, je crois que c'est des racines qui peuvent se répartir de manière très nombreuse et se diviser quasiment à l'infini pour faire des organismes gigantesques. Et donc, il y a un peu ce côté, on va se déployer, on va se diviser et se multiplier.
Il faut aussi savoir que Rhizome, à la base, c'est une planète végétale. Alors, il y a toute une histoire de la lore que je ne spoilerai pas parce qu'il faut jouer au jeu pour le découvrir. Mais le monde de Rhizome, Atis, est uniquement végétal. Il n'y a pas de métal, en principe, sur cet univers-là. Donc voilà, Rhizome, c'est pas pour n'importe quoi non plus. Il y a effectivement une référence au monde végétal.
Donc Kaganat, l'idée, c'est d'avoir un univers imaginaire. Qu'on puisse y participer, y contribuer, l'alimenter, l'enrichir. Donc aujourd'hui, vous êtes combien dans cet asso ? Est-ce que vous avez des contributions nombreuses et variées ? Comment ça fonctionne ?
Alors les contributions, oui, on en a. Suivant les années, ça change beaucoup. Ça fait maintenant 6 ans que l'association a été créée. On est toujours entre 10 et 20 personnes qui sont présentes. Et généralement, chaque semaine, il y a 3-4 personnes qui sont réellement actives et qui avancent sur quelque chose. Ça tourne suivant les moments, suivant les contraintes de chacun, puisque pour l'instant, tout est bénévole. Donc forcément, il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas y mettre toujours à plein temps.
Est-ce qu'il y a un objectif ? Enfin, est-ce que vous avancez vers quelque chose avec un livrable ? Ou est-ce que vous êtes en train d'enrichir cet univers en vous disant « chacun peut contribuer comme il veut », avec juste le plaisir d'être créatif et d'inventer quelque chose à plusieurs ?
Alors, c'est compliqué. C'est vrai que le MMORPG nous sert un peu de fil rouge depuis longtemps, justement parce que l'intérêt d'un MMORPG, c'est du jeu vidéo, donc ça sollicite beaucoup de talents créatifs différents, que ce soit de dessiner, d'écrire des histoires pour faire les quêtes, de raconter des choses sur le monde, mais aussi faire du code. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est déjà très riche pour donner une piste pour se lancer sur quelque chose. Mais on s'est aussi rendu compte à certains moments que ça suffisait pas. On a eu entre autres des grands moments de creux sans aucun développeur. Sans développeur, faire un jeu vidéo, c'est pas possible. C'est des périodes qu'on a traversées parce que justement, il y avait plus que le jeu vidéo, il y avait aussi l'univers, et donc on a travaillé à ce moment-là. On s'est même dit à un moment, on va faire une web-série sur le sujet. On avait commencé à inventer une histoire, à commencer à trouver un peu des gens qui seraient peut-être motivés pour faire des choses. Puis là, on a des développeurs qui sont revenus et on s'est dit, ah bon, on va continuer sur le jeu vidéo. Mais vraiment, le jeu vidéo lui-même, autant le dire, au niveau technique, on a des grosses difficultés parce que c'est effectivement un énorme projet et que Rhizome a un code qui est très très intéressant sur plein de sujets, mais qui souffre aussi de son âge. Il a été fait dans les années 2000. Et il y a plein de choses qui ont beaucoup changé depuis, qui devraient être mises à jour. Bon, bref, c'est un chantier, un mastodonte immense. Donc parfois, c'est frustrant parce que sur cet aspect jeu vidéo, ça n'avance pas. Et heureusement, comme il y a le reste aussi, là, ces temps-ci, par exemple, nous avons un de nos contributeurs qui organise des canateliers sur Toulouse, où des gens sont invités, qui parfois ne connaissent pas du tout l'univers et le canat. Et ils sont invités, le temps d'un après-midi, à dessiner des créatures, à inventer une région ou des personnages. On a vraiment des contributions très sympathiques comme ça. Y compris de gens qui finalement n'ont pas un usage de l'informatique. Dernièrement, on a eu des dessins qui étaient scannés. Voilà.
Et c'est pas difficile de compiler des contributions de gens différents pour garder une cohérence à l'univers et pas avoir des gens qui vont faire un truc qui colle pas avec ce que vous aviez imaginé initialement ?
Alors, y a quand même déjà une lore qui est bien posée. Alors, c'est pas complètement...
Alors,
une lore, c'est le background de l'univers. C'est encore un mot anglais aussi. Lore, c'est un mot anglais et background aussi. Je ne sais pas si on a une traduction en français pour cette
cosmologie,
termes.
On pourrait dire. Hein. Ouais, une mythologie.
Ouais, mais ça, c'est un côté un peu...
Un historique.
Ouais, c'est compliqué, hein. Franchement, le mot anglais est bien. Donc, toujours est-il que oui, il y a effectivement cette difficulté de garder un univers cohérent, donc il y a des choses qui ont été posées à la base, mais ceci dit, qu'ils peuvent aussi toujours se discuter. Il faut savoir que l'univers de Kanat est justement prévu dès la base comme étant un univers libre, donc un univers où tout peut être remis en question du jour au lendemain. Et dans l'univers même, c'est inclus, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle les brumes, qui régulièrement recouvre le monde et change des choses. Et les rats, donc les rats sont, on va dire, comme les êtres humains, là c'est une espèce qui s'appelle les rats, qui habitent cet univers, connaissent ce phénomène-là, et l'une des choses dont elles ont le plus peur, c'est que leurs souvenirs soient modifiés. Parce que voilà, la réalité peut changer du jour au lendemain. C'est comme ça.
Une traduction alors, on se trouvait que folklore, c'était pas mal.
C'est effectivement pas mal, ouais.
Du coup, aujourd'hui, si on veut explorer ce monde-là, qu'est-ce qu'on a comme moyen ? Est-ce que c'est quelque chose qui, cet univers peut se jouer, peut se pratiquer, ou est-ce que ça reste encore un chantier ?
Alors ça reste quand même beaucoup un chantier. Vous pouvez quand même aller sur le site kaganat.net. Alors il y a deux parties qui vont vraiment être intéressantes pour découvrir l'univers. D'un côté, il y a l'encyclopédie, qui s'appelle l'humain, l'unité mémoriale 1, qui permet d'avoir un bon aperçu de l'univers, même s'il y a vraiment un très très gros chantier de rédaction à faire pour que ce soit plus accessible à des gens qui débarquent. Et puis, une autre partie du site qui est vraiment très intéressante, c'est notre médiathèque, appelée Médiatheki, parce qu'on aime bien les petits noms un peu bizarroïdes, où il y a les histoires de gens qui sont passés ou qui sont encore présents dans le projet. Voilà, des petites histoires, parfois longues, parfois courtes. On a quasiment un roman d'une personne, entre autres, qui présente le Kanat dans plein d'aspects. Parfois des héros, parfois des gens ordinaires, parfois des petits tableaux. Voilà.
Alors, il y a une petite particularité sur ton site que j'adore. Vous écrivez différemment que sur les autres sites. Et donc, quand vous faites du générique, c'est conjugué au féminin, féminin pluriel souvent. Et donc, ça donne des phrases quand même assez sympathiques. Typiquement, oui. Dans la médiathèque, on s'adresse aux visiteuses et non pas aux visiteurs. Je trouve ça assez original. Nous avons eu quelques nouvelles arrivantes intéressées par les aspects graphiques. Et là, on se demande, ah, c'est que des femmes ? Non, non, c'est juste que vous avez décidé que, en général, c'est des femmes. Tu peux nous expliquer votre raisonnement ?
Oui, alors... Tout ça est parti d'une blague, d'une des fondatrices ou fondateurs, je ne sais pas comment dire, parce que c'était donc quelqu'un qui, pendant longtemps, nous avons cru que c'était une femme avant d'apprendre que c'était peut-être un homme, mais finalement, au final, je ne sais pas si on aura su la vérité. Et qui, justement, s'amusait beaucoup à dire « ce sont les femmes le sexe fort ». Donc, évidemment, comme nous, nous respectons bien la langue française, nous accordons, suivant le genre dominant, donc le sexe fort, si c'est les femmes, il faut donc l'accorder au féminin. C'était à la base vraiment parti comme une blague, et puis ça plaisait beaucoup au sein de l'association. Et donc, à un moment, on s'est dit « mais... » y compris dans la communication officielle, il faut le tenter. On a tenté au RMLL, entre autres, RMLL 2017. Et moi, j'étais un petit peu terrifiée sur mon stand en disant « on a genré les trucs au féminin, on va voir tous les trolls qui vont débarquer ». Et en fait, il n'y a eu aucune réflexion. Et à la fin du week-end, j'ai demandé à quelqu'un du stand d'à côté « mais vous avez vu que là, c'était adressé aux femmes et pas aux hommes, enfin, en tout cas, au niveau du genre de base ?» Il dit « oui, oui, j'ai vu ». Je me suis dit « tiens, c'est bizarre ». Puis après, « ouais, pourquoi pas ». Voilà. Et donc, à partir de là, on s'est dit, OK, on va pousser l'expérience jusqu'au bout, on va genrer au féminin, vraiment, dans nos communications publiques. On va le mettre comme règle et on va voir ce que ça fait. Il faut savoir que Gaganat, c'est aussi, avant tout, un espace d'expérimentation. Et ça, ça fait partie des nombreuses expérimentations qu'il faut faire pour interroger nos acquis culturels, quelque part. On le fait, évidemment, sans trop se prendre au sérieux, donc on vous engueulera pas si vous avez envie de genrer au masculin par défaut. C'est pas un problème et... honnêtement, on s'en moque. Mais on essaye de le faire en tout cas dans les communications publiques et il y a beaucoup d'entre nous qui s'amusent à le faire aussi sur le canal ou sur le forum. Parce que ben, ça change la façon dont on prend plein de choses.
Alors si on veut contribuer, quelqu'un qui a envie de participer à cette grande aventure, comment on s'y prend ?
Alors si on veut contribuer, le mieux c'est de venir soit sur le forum, soit sur notre canal XMPP pour se présenter. Et pour qu'on discute un petit peu, parce que l'idée sur Kaganat, c'est toujours de prendre du fun à tout ce qu'on fait, et que c'est pas parce que vous êtes compétent dans un domaine que c'est forcément dans ce domaine-là que vous allez avoir envie de bosser. Donc on prend généralement beaucoup de temps au début pour voir qu'est-ce que vous auriez envie de faire. Et puis pour vous présenter aussi un peu le projet dans son ensemble, parce que c'est tellement énorme, tellement labyrinthique, que c'est vraiment facile de s'y perdre. Il y a d'ailleurs beaucoup de contributions à faire sur l'accès aux arrivants, là il y a du boulot là-dessus. Et puis voilà, ensuite pour contribuer, ça va dépendre vraiment des domaines qui intéressent. Si c'est du graphisme, on oriente plutôt vers Yanka qui est le pro sur ces questions-là. Si c'est du code, on a actuellement beaucoup de choses qui se font, entre autres avec Godot. Donc voilà, il y a un peu de quoi faire sur tous les domaines et on trouve toujours quelque chose qui peut être intéressant.
Très bien, donc on rappelle, Kaganat, c'est KHAGANAT.net. Et allez faire un tour là-bas. Merci beaucoup Amalia.
Merci.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Salut.